Bienvenidos a este informativo de Radio
France. Paris Live with me. Today's headlines.
Accent du monde. Philippe Le Caplin.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du monde, l'actualité vue par les rédactions en langues étrangères du RFI. Votre radio dans toute sa richesse et sa diversité. Ce soir, c'est avec pour la rédaction en chinois, Nina Luang.
Bonsoir.
Qui nous racontera comment la Chine célèbre le premier anniversaire du déconfinement de Wuhan. De la rédaction vietnamienne Tran A Tran, pour la résistance difficile du Vietnam face à la diplomatie vaccinale de la Chine. Et Matei Vichniec de la rédaction roumaine, pour nous parler d'un livre intitulé « On ne peut vivre qu'à Paris », écrit à partir d'aphorismes d'Émile Cioran, philosophe d'origine roumaine. Mais avant cela, la question qui traverse actuellement la planète, pourra-t-on retrouver la vie d'avant grâce à la vaccination, au passeport vaccinal, et ce sera pour quand? Aujourd'hui, la Grande-Bretagne, par exemple, a annoncé que dans un mois, elle confirmera si elle autorise la reprise des voyages internationaux et quels pays seront classés dans les catégories rouge, orange ou verte, selon un nouveau système basé sur les risques liés au Covid-19. Le gouvernement est également en train d'élaborer un système de certification, autrement dit un passeport vaccinal, pour les voyages entrant et sortant. La question est donc difficile. Je vous la pose tout d'abord, Tran A Tran. Pourra-t-on retrouver la vie d'avant grâce à la vaccination et au passeport?
Vous l'avez dit, c'est une question difficile à répondre, car au fond, ce sont nos gouvernements qui détiennent la clé de tout cela. Et tout dépend aussi de la progression de la vaccination en France, du nombre de vaccins que recevra chacun des pays membres de l'Union européenne. Le passeport vaccinal, pour l'instant, il faut dire que l'Europe avance en ordre dispersé. Le Danemark, par exemple, progressivement instaure le Corona Pass pour les salons de coiffure, pour accéder aux salons de massage, puis les terrasses de café et les musées. L'Estonie, le plus petit pays des trois pays baltes, s'est donné pour objectif d'être le premier à déployer une technologie de pointe pour le passage des frontières. C'est-à-dire il faut avoir un QR code sous forme numérique ou imprimé qu'on va présenter lors du passage à la frontière. On note aussi que si les 27 pays soutiennent le certificat vert numérique proposé par la Commission européenne depuis mi-mars, la plupart des pays membres restent assez réticents à un usage domestique pour accéder à certains services ou commerces. Aux États-Unis, le passeport vaccinal fédéral a été écarté par la Maison-Blanche. En Floride, il a même été interdit au nom du respect des libertés individuelles.
Nina Luang, vient d'en être question rapidement du Danemark avec ce fameux Corona Pass. Donc le Danemark a fait entrer, hein, c'était le 6 avril, un des premiers passeports vaccinaux en Europe, ce qui permet aux citoyens de retrouver certaines libertés. Dites-nous en plus à quoi il ressemble.
En fait, ce Corona Pass, comme ce qu'on a dit tout à l'heure, ça permet surtout sur une application mobile ou sur une feuille aux utilisateurs de montrer s'ils sont pleinement vaccinés, c'est-à-dire deux fois, s'ils sont testés positifs de 2 à 12 semaines ou bien négatifs depuis moins de 72 heures.
Et le but pour ceux qui l'auront, ce passeport, ce sera quoi?
Ça sert surtout au déplacement, mais au grand regret des touristes, il n'est pas encore destiné au voyage, mais à l'entrée aux certains commerces, comme par exemple chez les coiffeurs, aux auto-écoles, ensuite au resto, au musée, au théâtre et finalement au ciné à partir du 6 mai. Et si tout se passe bien, à une ouverture totale du pays le 21 mai. Le 21 mai, parce que le Danemark compte vacciner tous ceux qui veulent parmi les plus de 50 ans avant cette date. Face aux craintes de la pérennisation de la collecte des infos personnelles, les autorités danoises confirment que ce Corona Pass, bien que provisoire, devrait rester en vigueur jusqu'à ce que la totalité de la population ait accès au vaccin, et cela au cours de l'été.
Alors ça, c'est pour le Danemark. Venons-en à la Grèce. La Grèce qui compte également réussir grâce au passeport vaccinal, je vais y arriver, à relancer son économie.
Absolument, parce que la Grèce est très dépendante du tourisme et décide de ne pas attendre Bruxelles pour sauver cette saison estivale. Elle est sur le point d'un accord avec, par exemple, la Roumanie, provenance importante des touristes pour la Grèce, pour pouvoir accueillir mutuellement les touristes. Le ministre grec du tourisme, Theo Haris, s'est rendu justement à Bucarest pour en parler. On l'écoute.
Le son n'est pas très bon. Vous allez nous nous aider à comprendre ce qui est dit?
Il dit que la Grèce veut vraiment que l'Union délivre le certificat sanitaire européen, mais d'ici là, la Grèce veut avec la Roumanie trouver une solution entre les deux pays. Notre saison touristique sera officiellement lancée le 14 mai, mais vers mi-avril, nous serons déjà prêts pour les touristes de l'Union et évidemment pour les Roumains.
Vous n'auriez pas mieux dit, hein, Matej Wichniak, hein, sur la situation roumaine. Je reviens vers vous dans quelques instants. Avant cela, Nina Luang, au niveau européen, le certificat sanitaire sera prêt et vous pensez que ce sera prêt quand ?
Pour l'instant, on dit qu'on parle de l'entrée en vigueur du certificat vert européen pour juin. Il sera basé sur le résultat du test et la situation de la vaccination des détenteurs. Mais les divergences sur les vaccins à reconnaître et d'autres questions telles que la durée de conservation des données personnelles ou bien la durée de la validité des certificats pourrait retarder le processus d'approbation si longtemps que les passeports ne seront peut-être plus utiles.
Alors, après la visite du ministre grec à Bucarest pour mutualiser le passeport vaccinal, le directeur de l'OMS pour l'Europe s'y est également rendu. Des commentaires sur ce laissez-passer vaccinal ?
Oui, mais en gros, il dit que l'OMS est pour une documentation, mais est contre que cela s'appelle un passeport. On l'écoute, hein.
The WHO position is that it's very important that people who get a vaccine have documentation.
Quelles sont ces explications, Hans Kluge?
Donc, le directeur de l'OMS Europe insiste, je cite, « Il est très important que les personnes vaccinées aient une documentation, on ne l'appelle pas un passeport, mais un certificat de vaccination intelligent. Car c'est très délicat à ce stade de voyager en appuyant sur le statut vaccinal. C'est délicat au niveau politique, éthique et juridique. Ce que l'OMS essaie de créer, c'est un cadre international de confiance. » Fin de citation. Donc, peu importe comment ça s'appelle, un passeport, un laissez-passer, un certificat, la position de l'OMS est claire. Elle conseille que les autorités créent un document pour se vacciner.
Quand va-t-on retrouver la vie d'avant, train à train ? Cette question semble préoccuper donc l'Europe. Enfin, elle ne semble pas, elle préoccupe l'Europe. Mais elle se pose également en Asie, mais peut-être un peu moins.
Bah oui, ici, nous avons hâte de retrouver nos amis, nos vies, notre vie d'avant, mais peut-être pas tout à fait en Asie, du moins à travers les retours que nous avons recueillis au sein de la rédaction vietnamienne avec nos auditeurs au Vietnam, mais également aux États-Unis ou avec nos correspondants en Asie. Alors pourquoi ? Parce que le Vietnam, par exemple, depuis plus d'un an, a moins de 3000 cas positifs, donc c'est quand même très peu pour une population de à peu près un tout petit peu moins de 90 millions. Et il y a eu 35 décès sur cette population. Plus largement en Chine, on voit que avec une population de 1,4 milliard de personnes, la Chine, tous les jours, nous explique, au moins dans les statistiques officielles, il y a à peu près quelques dizaines de cas. Au Japon, c'est pareil, le nombre de décès est assez faible. Taïwan est un champion dans la matière. La Corée du Sud semble bien maîtriser la trajectoire aussi de la pandémie. À vrai dire, en Asie, par exemple, il n'y a pas eu vraiment de fermeture stricte des restaurants et des bars, du moins à l'heure où nous parlons. Hein. Les masques ne sont pas forcément obligatoires, sauf dans certains centres commerciaux. Il y a également quelques mesures de distanciation sociale à respecter, mais d'une manière générale, le tourisme intérieur est toujours autorisé. Enfin bref, la vie est quasiment normale. De même que les choses que nous avons entendues aux États-Unis, il n'y a pas vraiment de confinement aussi strict qu'en Europe.
Justement, hein. On a vu en Californie la célèbre plage de Venice Beach qui est rouverte avec beaucoup de gens qui la fréquentent. Les États-Unis qui vaccinent à tour de bras, si on peut faire un jeu de mots.
Oui, alors au 6 avril, on sait qu'il y a plus de 108 millions de personnes ayant reçu au moins une injection de vaccin et ça représente à peu près un tiers de la population. Les États-Unis ont également 3 vaccins autorisés, celui de Johnson & Johnson, celui de Moderna et Pfizer-BioNTech. Le président Joe Biden, par ailleurs, vise 200 millions d'injections au 100e jour de son entrée en fonction.
Donc c'est le 30 avril, à la fin du mois. Matej Wichniak, l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture, a organisé le 23 mars, il y a quelques jours, un colloque intitulé « Penser le monde d'après ». justement. Vous y avez assisté, Mathieu, et vous en avez parlé hein, dans vos émissions en langue roumaine.
Oui, l'UNESCO, à l'initiative de la Tunisie, a invité que des auteurs et des artistes francophones pour s'exprimer sur ce qui pourrait être le monde après. Et je pense que c'est une très bonne chose. Il est important d'avoir des écrivains, des artistes et des rêveurs parmi les architectes du monde de demain, et pas seulement des politiques, des patrons, des financiers, des économistes, des militaires, des scientifiques, des chercheurs, des philosophes, des sociologues, des hommes d'affaires. Les artistes aussi, ils peuvent apporter leur contribution, car il faudra pas seulement des vaccins, mais aussi de l'imagination pour sortir de l'impasse. Et les artistes pourraient apporter leur contribution.
Et le philosophe Edgar Morin lui a lancé un avertissement.
Oui, très intéressant. Il a averti que le monde aujourd'hui a des carences de pensée. Donc pas n'importe quelle carence, des carences de pensée, dans le sens que les gens sont de moins en moins capables de penser la complexité. Et je cite ici un autre avis, l'avis d'un économiste universitaire américain d'origine indienne, Navi Raju. Nous devons de toute urgence mobiliser toutes nos ressources imaginatives pour un changement du modèle, dit-il. Nous connaissons le modèle qu'il faut changer. C'est celui qui produit des pandémies, épuise les ressources de la planète et nous projette dans un cycle de crise chaotique jusqu'à l'extinction de l'humanité. Je trouve intéressant et important cet appel qui vient de plusieurs directions, y compris de l'UNESCO. Nous avons un besoin urgent d'imagination pour trouver des solutions et les mettre en pratique.
Et vous avez parlé également dans vos émissions en langue roumaine de plusieurs initiatives hein, lancées par plusieurs pays, dont la France, pour la création d'une convention mondiale sur la santé.
Oui, disons que les idées sont là, nombreuses et très intéressantes. Comme la crise est sans précédent, les réponses doivent être d'une ampleur sans précédent. On a déjà une initiative du Conseil de sécurité des Nations Unies pour permettre une trêve humanitaire face à la pandémie. On a une initiative sur la recherche, les diagnostics, les traitements et les vaccins en coordination avec l'Organisation mondiale de la santé. Le président français Emmanuel Macron veut un partenariat inédit entre l'ensemble des acteurs, l'État, organisations régionales et internationales, acteurs publics et privés, recherche, banques, développement, société civile. Mais il faut se rapporter aussi au cataclysme du passé.
Alors, un peu d'histoire.
Oui, la Grande Guerre, la Deuxième Guerre mondiale, la chute du communisme, voilà, trois cataclysmes. Il n'est pas difficile de voir qu'au cours de 100 dernières années, les périodes post-cataclysmiques ne se sont pas déroulées comme l'humanité l'aurait souhaité. Après la Première Guerre mondiale, on a dit plus jamais ça, et on a eu les années folles, et ensuite la grande crise économique et la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a eu une longue guerre froide. Après la chute du communisme, on a cru dans la fin de l'histoire, voilà, la victoire de la démocratie, mais on a eu en parallèle, avec une globalisation sauvage, la résurgence de nouveaux conflits et de fléaux comme le terrorisme. D'où la conclusion que maintenant aussi, après la pandémie, les choses ne se passeront pas comme nous le souhaitons. C'est plus facile en effet de dire ce que nous ne devons pas faire après la disparition du virus, s'il s'en va. Surtout, ne pas faire une grande fête mondiale pour répéter les erreurs d'il y a 100 ans.
Donc il n'y aura pas d'année folle après les années Covid. C'est ce que vous nous dites, Mathieu Wichniak. En tout cas, l'UNESCO elle a publié un rapport alarmant sur l'état de l'éducation dans le monde, dans ce contexte de pandémie. Il est question d'une possible catastrophe générationnelle.
Ça m'a interpellé, ce concept. Oui, on commence déjà à parler d'une génération Covid. Tout comme on a parlé de la génération 68 tard, après les émeutes des jeunes cette année-là, 68, ou bien comme nous parlons de la génération Internet. À mon avis, la génération Covid a beaucoup de choses à nous reprocher à nous, la génération d'avant, adulte, voilà, âgé. Il ne faudra pas s'étonner si bientôt on va assister à un phénomène générationnel de rupture, car de telles ruptures de comportement se sont souvent produites dans l'histoire. Après les guerres, après les crises économiques ou après les cataclysmes, les jeunes ont voulu vivre autrement, ou du moins ont voulu exprimer ce désir à travers des mouvements de protestation.
En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de cadre juridique international susceptible de recevoir, on va appeler ça, des plaintes générationnelles.
Oui, mais peut-être qu'un jour, les jeunes voudront le créer. Les générations dont on vole l'avenir ont le droit de traduire en justice les générations fautives, disent certains militants. La génération Covid est la première victime professionnelle et sociale de l'épidémie, mais peut-être qu'elle pourra aussi tirer les leçons de la défaite du monde avant. La pandémie a été aussi une sorte de laboratoire de l'avenir. Les jeunes pourraient être les premiers bénéficiaires de certaines grandes transformations, par exemple l'émergence de nouveaux métiers, l'extension du télétravail, le mouvement de retour au milieu rural et d'autres.
On verra bien, comme on dit. En tout cas, vous écoutez Accent du Monde sur Radio France Internationale.
This is Radio France International.
De Paris, RFI,
Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
Et continuons à parler du Covid-19 avec la stratégie vaccinale des États du monde. Voilà quelque temps, dans Accent du Monde, il était question de géopolitique du vaccin, tant les pays préfèrent recourir à l'antidote produit par les laboratoires installés dans leur zone d'influence. À la rédaction vietnamienne de RFI, Tran A Tran, vous avez parlé de la difficile résistance face à la diplomatie du vaccin chinois, c'est-à-dire...
Alors, déjà, l'idée de la diplomatie vaccinale est apparue avec cette pandémie. Le phénomène reflète d'une manière plus générale ce qui existe depuis longtemps, c'est-à-dire l'usage du soft power en relations internationales, parfois pour servir la propagande. Ainsi, la distribution de l'aide alimentaire ou les investissements dans les grands projets d'infrastructure répondent souvent à des besoins, mais se font de manière intéressée. La politique étrangère manipule toujours la coopération. Toute aide au développement depuis ses débuts a toujours été plus ou moins politisée. En diplomatie vaccinale, on voit bien que la Chine ou la Russie offrent des vaccins pour accroître leur réputation, dorer leur image et se faire des amis. Au passage, de montrer que les Américains et les Européens ne distribuent pas les vaccins.
En même temps, les Chinois et les Russes ont du mal à le faire, puisque à distribuer ces vaccins abordables en Amérique du Sud, les États-Unis n'autorisant aucune exportation de vaccins.
Oui, on note cependant que les Russes et les Chinois offrent des produits à l'étranger sans avoir vacciné toute leur population. Alors, deux questions se posent. Pourquoi ? Peut-être que la diplomatie compte plus que la population intérieure, ou dans le cas de la Chine, il n'y a pas d'urgence à vacciner au regard du nombre très faible de cas sur le sol chinois. En tout cas, on est face à un problème épineux sans solution facile dans l'équilibre des responsabilités nationales et internationales.
Sans trop rentrer dans le détail, quelles sont les capacités chinoises en matière de vaccins ?
Alors, je parle sous le contrôle de Nina. Au début du mois de mars, Pékin a promis de fournir environ 500 millions de doses de vaccins à 45 pays, selon les chiffres compilés par l'agence AP. Quatre firmes chinoises sont donc en mesure de produire au moins 2,6 milliards de doses cette année. Cela veut dire qu'une bonne partie de la population mondiale sera protégée avec un vaccin chinois. Cependant, les données scientifiques concernant l'efficacité et la sécurité des vaccins chinois sont rares et il faut reconnaître qu'il y a quand même les craintes pour la sécurité, en fait, l'efficacité de ce produit. Et puis, d'un point de vue purement comptable, certains se demandent aussi ce que Pékin pourrait attendre en retour de ces doses données.
Et oui, c'est toute la question. Quelles sont les arrière-pensées politiques et puis surtout, quelle efficacité de ce vaccin ? Enfin, on voit que les choses sont en train de se caler petit à petit. Hein.
Oui, alors on sait à peu près, par exemple, pour le vaccin Sinovac, qu'il y a différents tests qui donnent des résultats différents, mais mondialement, les responsables de santé publique affirment que tout vaccin dont l'efficacité est au moins à 50% est efficace. Voilà.
Les pays qui profitent de la diplomatie vaccinale de la Chine s'inquiètent parfois de ce qu'on pourrait leur demander en retour, bien évidemment.
Oui, aux Philippines, à qui la Chine a fourni 600 000 doses, un diplomate de premier plan affirme que le ministère chinois des Affaires étrangères a subtilement demandé à Manila de modérer ses critiques des manœuvres de la Chine en mer de Chine du Sud. La diplomatie vaccinale fonctionne donc à bloc avec les voisins en Asie du Sud-Est, comme aux Philippines, comme on vient de le dire, mais également au Cambodge, en Birmanie, au Laos. Ceci dit, le Singapour et le Vietnam sont des exceptions. Écoutons notre invité, Lee Hong Hiep, de l'Institut d'études de l'Asie du Sud-Est, basé à Singapour.
Que vous a-t-il dit?
Alors, il nous a expliqué que Singapour n'a pas encore autorisé le vaccin Sinovac. Cependant, il y a 2 mois, la Chine a envoyé un lot important pour implicitement inciter ce petit pays de l'Asie du Sud-Est de se hâter dans ses décisions. L'enjeu est important parce qu'on sait que les normes de sécurité sanitaire sont très strictes à Singapour. Donc, obtenir le feu vert de cet État-cité est une reconnaissance importante pour cette firme chinoise et à travers elle, l'industrie pharmaceutique chinoise du côté vietnamien, Hanoï adopte la même prudence que le Singapour.
Et combien de temps tiendra le Vietnam?
Alors, tout dépend du nombre de nouveaux cas au Vietnam. Pour rappel, jusqu'à...
Il y en a peu, hein, vous le disiez, 35 décès pour 90 voilà. millions d'habitants.
Donc, il y a très peu. Donc, il n'y a pas d'urgence pour le Vietnam d'accélérer sa campagne vaccinale. Cependant, pour retrouver la vie d'avant, c'est-à-dire avec l'arrivée des touristes, le Vietnam est obligé de passer par la case de vaccination et avoir ce qu'on appelle l'immunité collective. Hanoï a autorisé Sputnik V de la Russie, mais reste sur ses gardes avec le vaccin chinois. Notre invité nous explique.
Tôi nghĩ là có lẽ là Việt Nam do có cái sự thành công.
Alors, sur cette question-là, quelle est son expertise?
Plus précisément, sans doute parce que le Vietnam a bien réussi à contenir la pandémie et par conséquent peut se permettre de se hâter lentement dans la signature des contrats avec les firmes chinoises. Pour l'instant, seuls Sputnik V de la Russie et AstraZeneca sont autorisés. Il y a donc le vecteur sécurité. Les données chinoises ne sont pas transparentes, complètes aux yeux des autorités vietnamiennes.
Et puis autre chose, le Vietnam est en train de développer son propre vaccin contre le Covid-19.
Tout à fait. Théoriquement, début de 2022, il y aura une voire deux vaccins made in Vietnam, à savoir NanoCovax et Covivax, d'où la difficulté pour le gouvernement vietnamien de ne pas froisser son grand voisin du Nord. Notre invité nous a également expliqué que il y a une très grande méfiance de l'opinion vietnamienne d'une manière générale vis-à-vis de la Chine, notamment suite à de nombreux scandales tels que le lait infantile mélaminé. Donc, cette méfiance subsiste.
Merci pour cet éclairage, Tran Tran, de la rédaction vietnamienne de RFI. Les Chinois fêtent le déconfinement de la ville de Wuhan, on en parlait tout à l'heure, où la première alerte au coronavirus a été donnée au monde. Pendant 76 jours, pour endiguer l'épidémie, les 11 millions d'habitants de la ville ont vécu dans la peur. Aujourd'hui, la province où se situe Wuhan est forte de 59 millions d'habitants. Elle compte 0 cas. En fait, il n'y a que 2 cas de personnes contaminées asymptomatiques qui sont en quarantaine, toutes les deux en provenance de Pékin. Nianlan Wang, comment est-ce que les habitants de cette ville devenue mondialement célèbre fêtent ce premier anniversaire du déconfinement?
Tout simplement, ils le fêtent par profiter pleinement de la liberté retrouvée. Les habitants de Wuhan ont aujourd'hui presque retrouvé à 100% la vie normale d'avant, sauf les tests d'température à l'entrée des endroits publics clos, les QR code à scanner, certaines limites pour le nombre des visiteurs sur les sites touristiques et le port du masque, bien sûr. Sur les réseaux sociaux, les internautes comparent la vie confinée il y a plus d'un an et la vie émancipée d'aujourd'hui. On trouve les photos des rues désertées en confinement et à côté les photos de la même ville, mais dynamique et vivante, déconfinée. Les vidéos des stades transformés en hôpital qui rouvrent la porte aux jeunes sportifs suite au déconfinement, les témoignages des couples qui ont chacun de leur côté contribuer à la lutte contre le virus et les volontaires qui ont secouru la ville de Wuhan, etc. Un volontaire et habitant de Wuhan qui s'appelle Wang Zhong se rappelle de la vie juste après le déconfinement.
Alors, quel est son témoignage?
Il se souvient que suite au déconfinement, il a continué à servir en tant que volontaire jusqu'au 1er mai 2020. Puis il a enfin repris son propre travail car il fallait gagner de l'argent pour vivre. Et puis un jour, un camarade de l'école l'a appelé en lui disant qu'il a regardé son interview sur la télé et cela l'a beaucoup motivé et inspiré. Et ce camarade de l'école a ainsi commencé à travailler comme volontaire lui aussi.
Parlons chiffres, la Chine a de quoi se vanter aujourd'hui. Seulement 279 contaminés, 7000 cas contacts en observation. Si cela sert au niveau politique comme outil de communication pour booster l'image de la Chine, est-ce que cette fierté est partagée par la population ?
Oui, sans aucun doute. Bien sûr, il reste beaucoup d'interrogations et de critiques de la population sur l'origine du virus, sur la gestion de l'épidémie, sur la transparence des chiffres et sur la corruption. Mais il y a aussi... avant tout, une fierté collective d'avoir gagné cette bataille. Un employé de café à Wuhan témoigne.
Alors, que vous a-t-il dit cet employé de café ? Café qui ont donc ouvert au passage à Wuhan,
oui,
les terrasses également.
Il a dit que suite au déconfinement, ce café où il travaille a conçu une sorte de café latte Wuhan, avec une série d'emballages en hommage aux soignants et aux volontaires pendant le confinement. Et cette série de produits s'appelle « Salutations aux héros ». En fait, le mot « héros » est aujourd'hui surtout lié à l'image de Wuhan, bien au contraire peut-être à l'international où cette ville est plus associée à l'origine du virus et aux responsabilités que devrait porter la Chine. Mais pour les locaux, c'est avant tout un souvenir de solidarité, de sacrifice héroïque bien mérité, s'enfermer au risque de mourir du virus et du désespoir pour sauver le reste du pays.
Et tout cela, bien évidemment, est à retrouver sur le site internet de la rédaction chinoise de Radio France Internationale. Merci à vous, Ninan Wang. Nous allons maintenant feuilleter un livre que la rédaction en langue roumaine nous recommande chaudement. Il s'agit d'un ouvrage dont le titre est « On ne peut vivre qu'à Paris ». Un livre illustré par Patrice Rété à partir des aphorismes d'Émile Sioran, philosophe d'origine roumaine. Vous avez particulièrement apprécié ce livre, Matei Vichniec.
Oui, c'est un livre de bande dessinée qui nous propose des promenades avec Sioran à travers Paris et des maximes réjouissantes par leur humour noir. Par exemple, Paris, l'unique ville où on peut vivre, c'est la ville idéale aussi pour rater sa vie. Oui, je pense que ce livre peut nous faire du bien en ce moment assez bizarre. Surnommé Diogène du XXe siècle, Sioran devient dans ce livre un tentant de la philosophie. Alors, en lisant les aphorismes de Sioran, le philosophe le plus pessimiste du siècle dernier, l'effet sur le lecteur est effectivement bénéfique, car on se dit, tiens, par rapport à l'univers de Sioran, notre vie, même malgré le confinement, est quand même très belle. Rien de plus réconfortant, donc, à mon avis, que de lire les réflexions de ce penseur déprimé qui est Sioran. Et il nous livre avec ses réflexions, avec beaucoup d'humour, un humour fou, avec une sorte d'ironie et d'auto-ironie, en plus avec une sorte de dérision et de l'autodérision.
Sioran, qui aurait dû avoir, enfin qui aurait pu avoir 110 ans cette semaine, ce livre de bande dessinée paru aux éditions Rivage lui rend hommage à travers 70 aphorismes moins connus. Vous nous en donnez quelques exemples, Mathieu.
Oui, je vais préciser que Patrice Rétier nous promène dans des lieux que Sioran avait aimés, le jardin de Luxembourg, le long du quai de la Seine, Notre-Dame, enfin Montmartre, et voilà. Et dans chaque lieu, il y a une réflexion comme une gifle métaphysique.
Par exemple,
je n'ai jamais pu savoir ce que être veut dire, sauf parfois en des moments profondément non philosophiques.
Vous avez 3 heures.
Oui bien, si l'équilibre sous toutes ses formes étouffe l'esprit, la santé, elle, l'étend carrément.
Bon. Encore une.
Si j'étais croyant, je miserais sur Satan, sur sa victoire finale, son apothéose.
Il s'agit donc d'un livre illustré par Patrice Rétier. Ce dessinateur vous a d'ailleurs accordé une interview.
Oui, c'est à mon collègue Vassile Damien qui l'a interrogé. Voici la réponse de Patrice Rétier à la question de mon collègue. Quel a été votre aphorisme préféré ?
J'aime beaucoup celui-là. L'homme enfin est arrivé à un stade où il mérite de disparaître. Alors, parce qu'il est écrit de manière très très subtile. Et là, il y a tout le génie de Sioran. Dans un premier temps, il a écrit « L'homme est arrivé à un stade où il mérite de disparaître ». Et puis, il a rajouté « Enfin ». Dans un premier état, c'était déjà une gifle. Là, c'est vraiment la tarte dans la figure, quoi.
Oui, et puis écoutons aussi la voix du Sioran, en français malheureusement, avec un autre aphorisme.
Au fond, la clé de tout, c'est pas la mort, c'est la naissance. Le drame, c'est pas de mourir, c'est de naître.
Voilà.
Émile Sioran, qui est venu s'installer à Paris en 1937, on va le dire. Et un peu de musique à Paris avec Yves Montand pour terminer, justement, puisqu'on parle de ce livre que vous nous recommandez chaudement, Matei Vichniec.
à Paris.
C'était Accent du Monde sur Radio France Internationale.
Ce dimanche,